Bienvenue dans l'émission Les Plantes Vagabondes, l'émission 100% nature de Radio G. Toute l'équipe du Plantier est ravie de vous retrouver dans sa nouvelle émission, cette fois-ci dédiée aux lentilles, des espèces essentielles dans l'alimentation, d'ailleurs parmi les plus anciennes cultivées par les humains. Je suis Claudie, ingénieure paysagiste conseil, et j'ai le plaisir de vous accompagner durant la prochaine demi-heure pour partir à la rencontre de ces jolies légumineuses gracieuses et délicates. Car comme tous les vendredis pairs à 13h, le tiers-lieu Le Plantier vous invite à partir en nature à la découverte de l'histoire des légendes, du mode de vie et des usages des plantes sauvages. Pour m'accompagner dans cette émission, nous écouterons la chronique L'Aquabulaire, les mots de la rivière, dans laquelle Marie vous permettra de mieux comprendre ce qu'est un aquifère. Une autre Marie régalera nos papilles, quant à elle, avec une recette de lentilles pour apprendre à les cuisiner. Dans la chronique Enherbez-vous. Enfin, nous aurons le plaisir d'écouter l'interview de François Boussineau, installé au Lion d'Angers, pour nous décrire comment il cultive des lentilles bio et locales. Un programme riche pour ravir tous vos sens. Restez bien à l'écoute sur Radio G 101.5 FM. Le chant joyeux et rythmé, caractéristique du Pouillot Vélos, réjouira vos oreilles durant cette balade immersive au pays des lentilles. Un chant à deux tons qui ressemble au son métallique des pièces de monnaie et qui lui vaut d'ailleurs le surnom de compteur d'écus. Ce passereau migrateur discret, d'une dizaine de centimètres, se reproduit dans les bois, les friches et les haies en construisant un nid en forme caractéristique de dôme, au ras du sol. Une position qui le rend bien sûr vulnérable à la prédation des chats, mais aussi des belettes. Fort heureusement, les mâles sont là pour veiller à les défendre becs et plumes. Les lentilles désignent des plantes légumineuses du genre Lens, reconnues et cultivées pour leurs graines riches en protéines et en fibres. Au cours de cette émission, nous avons choisi d'étendre notre thématique à d'autres espèces sauvages, aussi nommées lentilles, du fait de leur ressemblance morphologique. Il en est ainsi des vesques, plantes herbacées annuelles du genre Vicia, comme la vesque des haies, une jolie liane grimpante qui éclaire les haies de ses fleurs mauves. Munie de vrilles, elle se divise et s'accroche à la végétation des lisières et peut atteindre jusqu'à un mètre. Les bourdons se régalent du nectar en perforant leurs fleurs disposées en grappes. Du fait de leur richesse en protéines, de nombreuses vesques, à l'instar de la vesque cultivée ou vesque commune, Vicia sativa, les vesques sont donc des plantes fourragères précieuses pour alimenter le bétail. Utilisées aussi en engrais vert, elles contribuent à enrichir les sols en azote, elles protègent de l'érosion grâce à leur système racinaire profond et ramifié, tout en assurant une couverture végétale. Elles peuvent aussi être associées à d'autres cultures, comme les céréales, le tournesol ou le colza. Si vous conservez des espaces à végétation libre dans votre jardin ou dans vos jardinières, vous aurez le plaisir de découvrir la lentille sauvage ou vesque commune, déployer ses vrilles et ses délicates folioles. En observant ces ravissantes fleurs bourdonnantes d'insectes pollinisateurs, vous pourrez découvrir toute la diversité des insectes butineurs et pollinisateurs. Une excellente activité d'observation et d'émerveillement, totalement gratuite et source de bien-être. Au cours de vos promenades, vous pouvez aussi observer la discrète et minuscule vesque hérissée, une autre variété de vesque fréquente au bord des chemins et dans les espaces rocailleux. Comme la lentille du genre Lens, la vesque a été une des premières espèces cultivées pour l'alimentation humaine, et ce, dès le néolithique. L'occasion de découvrir la lentille cultivée et en écoutant l'interview de François, producteur au Lion d'Angers. Écoutons-le maintenant.
Bonjour François, donc tu es agriculteur et installé depuis 2021 dans une structure qui s'appelle Le Grain des Loges. Et donc peux-tu expliquer rapidement aux auditeurs de Radio G quelle est ton activité agricole ?
Oui, bonjour, donc François, je suis installé sur la ferme Grain des Loges depuis 2021. C'est une installation que j'ai lancée donc il y a 5 ans avec un objectif assez précis qui était de produire des cultures pour l'alimentation humaine en agriculture biologique et de commercialiser l'ensemble de ma production en circuit court. Donc je commercialise toute ma production en magasin, restauration collective pour une très grosse partie, des AMAP qui sont des associations du maintien de l'agriculture paysanne, et puis également des artisans comme des restaurateurs ou des boulangers. Donc ma production, elle est uniquement centrée sur l'alimentation humaine, c'est-à-dire que je produis 15 cultures différentes sur une surface de 40 hectares. On va retrouver des céréales, différentes céréales qui sont transformées en farine sur moulin à meule de pierre. Les céréales qu'on va retrouver, ça va être le blé tendre, le blé dur, le seigle et le petit épeautre. Qui est transformé en farine, on va également trouver le sarrasin. Et ensuite, il y a une grande famille de cultures qui sont faites sur la ferme, qui sont les légumes secs, avec différentes lentilles, trois couleurs de lentilles, des haricots secs, du pois cassé, du pois chiche, et puis également une graine plus de dégustation de bouche qui est le tournesol décortiqué, qu'on va retrouver dans les pains et dans les apéritifs.
Donc une vaste gamme, hein, parce qu'on a tendance à... Quand on parle d'agriculture, on pense plutôt aux maraîchers qui ont plein de produits. Et en fait, on se rend compte que, en dehors des légumes, on peut avoir aussi une très grande diversité. Et aujourd'hui, dans notre émission, nous nous intéressons tout particulièrement, j'ai envie de dire, aux lentilles au pluriel. Comment se conduit une culture de lentilles ?
Donc c'est vrai qu'on les retrouve sous différentes formes, les lentilles, différentes variétés. Elles ont souvent le nom de la variété est souvent lié à la couleur de l'amande de la lentille. Donc la lentille verte a une amande qui est plutôt une teinte jaune-verte. La lentille corail est très orangée, celle qu'on connaît classiquement dans les magasins. La lentille blonde est jaune. Et on peut retrouver tout un tas d'autres lentilles, comme la lentille beluga, qui est une lentille noire, et d'autres types de lentilles. La lentille, c'est une culture méditerranéenne qui est très adaptée au climat sec et chaud. Donc qui a un très bon avenir dans nos climats aujourd'hui et qui s'adapte très bien à des sols limono-sableux qui sont typiques de mon exploitation. C'est une culture qui s'implante tout début mars, donc dès que l'hiver est terminé. C'est pas une culture qui craint les fortes gelées mais qui doit être implantée le plus rapidement possible après la sortie de l'hiver. On a l'habitude de dire qu'il faut vraiment une terre très fine et suffisamment réchauffée pour faciliter la levée. Et donc c'est vrai que c'est une culture qui pousse très vite une fois le semis réalisé. Mais la difficulté est après la levée. C'est une culture qui est assez compliquée. Donc c'est une culture qui est très fragile. Moi j'ai l'habitude de dire que c'est du cheveu. Donc il y a pas de sa tige est très très fine et ne résiste pas aux intempéries, que ce soit le vent ou la pluviométrie. Donc très vite la culture va se retrouver au sol et plaquée au sol. Et de plus, la difficulté c'est qu'elle couvre très très peu le sol. Donc elle est très peu compétitive vis-à-vis des mauvaises herbes. Donc ça, c'est deux éléments en bio qui font que ça complique réellement la mise en culture. Donc il faut être très vigilant à tout un tas de techniques préventives pour maîtriser les mauvaises herbes avant de semer la culture. Et ensuite, il faut faire attention à avoir un sol qui soit vraiment très bien nivelé, très plat, pour vraiment que ce soit très linéaire, pour pouvoir le ramasser la culture au ras du sol.
Quand on fait des recherches sur les lentilles, on voit bien que dans l'imaginaire populaire, travailler les lentilles, la récolte et ce qu'on en fait après, ouais. C'est quand même une image un peu de culture, quelque part, entre guillemets, de pauvre, qui ouais. est compliquée à... Enfin, en fait, ça occupe l'hiver, en fait, j'ai l'impression.
Alors la raison pour laquelle on a cette image-là, c'est que, comme je le disais, là, c'est une culture qui va être à la moisson, qui va être plaquée au sol, donc qui verse, qui se retrouve plaquée au sol. Et donc, c'est récolté avec une moissonneuse batteuse, les mêmes machines qu'on utilise pour le blé, à la différence que la barre de coupe va être vraiment plaquée au sol. pour pouvoir ramasser un maximum de lentilles dans le champ. Et donc quand on est plaqué au sol, on a souvent tendance à ramasser des cailloux et des mottes de terre. Donc la phase après moisson est très très compliquée et très chronophage, puisqu'il va falloir avoir des phases de tri très, très nombreuses pour enlever tous les cailloux, les mottes de terre, les poussières, les pailles, etc. Donc heureusement aujourd'hui, il y a des techniques qui ont beaucoup évolué sur la technique de tri. C'est-à-dire qu'on va utiliser des trieurs qui trient sur la densité, sur la couleur, sur la taille, sur le poids, etc. Donc on arrive aujourd'hui à produire des lentilles qui sont indemnes de cailloux, indemnes de terre. Et c'est souvent la première remarque que j'ai de certains anciens, c'est de dire « tes lentilles, elles sont bonnes parce qu'il n'y a pas de cailloux dedans
». Alors en tout cas, oui, on voit bien que là, on est sur le site de la MAP à Cantenay, où il y a une distribution ce soir. Et on voit bien que... Enfin, il n'y a pas de remarque sur la qualité des lentilles, hein, absolument pas.
Non, au contraire, ça a été même une surprise finalement, c'est d'avoir des retours très positifs sur la qualité des lentilles et sur le goût des lentilles. Je m'attendais à ce qu'il n'y ait pas de différence énorme entre les lentilles du commerce et celles produites sur mon exploitation. Et j'ai des nombreux retours sur le fait qu'elles ont un goût qui est différent de celles qu'ils ont l'habitude de manger, une meilleure tenue à la cuisson. Parce qu'on a quand même une vraie plus-value à consommer des lentilles locales qui sont fraîches et qui sont récemment cultivées.
La consommation, tu la vois plutôt comment aujourd'hui ?
C'est pas le légume sec qui a la moins bonne presse. Autant les pois chiches, les haricots sont des légumes secs qui sont vraiment très longs à cuire et qui peuvent faire grincer un petit peu certains consommateurs. Mais sur la lentille, on est vraiment sur un produit qui, à ma surprise, est vraiment très très apprécié et tout au long de l'année. C'est vraiment pas un aliment qu'on va consommer uniquement l'hiver. On a l'image d'un plat chaud plutôt réconfortant l'hiver, mais finalement l'été il est très très apprécié des consommateurs dans les salades froides, dans manger froid en fait finalement, et ça reste un aliment qui va être nourrissant l'été, mais sans être bourratif et faire transpirer, et voilà. Donc c'est quand même des choses qu'on recherche, surtout avec les canicules qu'on a de plus en plus.
Voilà.
Donc finalement c'est vraiment le top produit de la ferme, hein. c'est la lentille verte, il en manque tout le temps.
Ça c'est impeccable. Et donc plus pour ma curiosité personnelle, puisqu'en fait c'est une culture très peu couvrante, qui a du mal à tenir, etc. Ouais. Tu as déjà essayé de conduire des essais, puisque tu as plus de 15 produits, à associer la lentille à d'autres productions qui permettraient à la lentille d'être plus facile à récolter.
Donc c'est une interrogation quotidienne de savoir comment améliorer l'itinéraire technique de la lentille. Donc les associations de culture sont une piste. Donc aujourd'hui, moi je la cultive avec de la cameline. Donc c'est une crucifère de printemps qui a l'avantage d'être très peu compétitive vis-à-vis de la lentille, mais de tenir debout et de pouvoir faire tuteur. Donc c'est une technique qui fonctionne quand même relativement bien, qui mérite encore des améliorations techniques, notamment de mode de semis. Mais c'est une piste intéressante, et d'autant plus que la cameline est une graine qui est très intéressante pour l'huile. Pour la production d'huile. Donc aujourd'hui, moi, je ne la valorise pas, cette graine-là, mais je sais qu'il y a d'autres producteurs, notamment en Maine-et-Loire, qui utilisent cette graine pour faire de l'huile. Donc voilà. Et je finirai quand même pour dire qu'elle a quand même des avantages, hein, cette culture dans la rotation, dans mon assolement. C'est que c'est une légumineuse, et donc elle a la particularité de fixer l'azote de l'air. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, il y a 80% d'azote dans l'air qu'on respire. Et l'azote est le nutriment principal des plantes, l'aliment principal des plantes pour se développer. Et donc la lentille, qui est une légumineuse, a la capacité, par son système racinaire, de pouvoir fixer l'azote qui est dans l'air et d'être autonome en nutrition azotée. Donc j'apporte strictement rien sur cette culture-là, je sème et je récolte. Voilà, c'est une culture qui est quand même assez confortable. Même stressante, mais confortable.
C'est une bonne nouvelle quand même qu'on puisse trouver des produits locaux pour se nourrir et qu'on peut sortir de certains produits exotiques. Ou si jamais on n'a plus de riz, on aura toujours des lentilles ou du sarrasin. Mais ce sera l'objet d'une autre interview.
Avec plaisir.
À très bientôt, François.
Merci. À très bientôt. Merci.
Quelle interview passionnante qui donne une perspective positive au métier d'agriculteur et qui invite à reconsidérer la relation au sol et au territoire. En augmentant la biodiversité dans la gamme des produits cultivés et en l'adaptant au sol, mais aussi à l'écosystème économique, cela permet de produire des aliments à la saveur unique, nourrissant et respectueux de la santé. Domestiqué depuis la préhistoire, originaire du Moyen-Orient, la culture des lentilles a contribué à l'essor des premières civilisations, comme en Mésopotamie ou en Égypte, ainsi que l'illustre une fresque dessinée sous Ramsès II, dans une scène où un personnage prépare une bouillie de lentilles. Des restes de lentilles, d'ailleurs, ont été trouvés, datant de 2200 ans, dans une autre tombe. Chez les Hébreux, la lentille est bien connue et la Bible en parle assez souvent. C'est un mets qui ne semble pas très apprécié car il est regardé comme un aliment de deuil et constituait souvent le premier repas qu'on prenait après la mort d'un parent. En Grèce, les lentilles sont assimilées à la nourriture des pauvres. On dit d'une personne qui s'enrichit qu'elle n'aime plus les lentilles. Pour les médecins Dioscoride et Galien, les lentilles affectent les entrailles et cette réputation digestive va se poursuivre jusqu'au Moyen-Âge où les procédés les plus divers sont utilisés pour la cuisiner, comme enlever les écorces des graines, utiliser de l'eau de puits, de l'eau vinaigrée pour la cuisson, ajouter des épices divers. Selon Hildegard de Bingen, la lentille est froide, quand on la mange, elle n'enrichit ni la moelle de l'homme, ni son sang, ni sa chair, elle n'augmente pas ses forces, mais elle rassasie le ventre et le remplit de vide. Elle provoque des tempêtes dans les humeurs qui sont dans le bas de l'homme. Cependant, sa forte valeur nutritive associée à une culture, un stockage et une conservation facile ont finalement emporté l'adhésion des agriculteurs et des cuisiniers. Cela est confirmé encore aujourd'hui par de nombreuses recettes régionales, comme le petit salé aux lentilles, apporté par les Auvergnats à Paris, les lentilles au lardon à la Dijonnaise, le canard confit aux lentilles, ou plus récemment, le velouté de lentilles au moule. Les lentilles font aussi partie des ingrédients de nombreux plats en Inde, appelés dal, dans la cuisine du Maghreb ou encore en Iran. Les adeptes contemporains de l'alimentation biologique les consomment aussi sous forme de graines germées, plus riches en vitamines. En parlant cuisine, cela nous met en appétit et je vous invite à écouter la chronique culinaire « Enherbez-vous » de Marie pour nous présenter de délicieuses recettes à base de lentilles. Préparez vos notes.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène en cuisine avec deux recettes végétales simples, économiques et surtout très gourmandes. On commence avec une terrine végétale parfaite à partager. L'idée, c'est d'utiliser des ingrédients du quotidien, des lentilles vertes, des carottes, des oignons et du poireau, qui apportent un goût doux et légèrement sucré. On ajoute quelques œufs, un peu de farine, de l'ail, du sel et du poivre. Le petit conseil en plus, les lentilles vertes peuvent être trempées la veille, avec environ 2 cm d'eau au-dessus. Ça permet de les rendre plus digestes et surtout de réduire le temps de cuisson à une dizaine de minutes. Nous allons donc commencer la recette avec 300 g de lentilles vertes crues que nous allons donc faire tremper la veille. Et nous allons les laisser toute la nuit au frais. Le lendemain, nous allons les égoutter et les mettre à cuire dans une casserole avec de l'eau, avec du gros sel, un oignon piqué de clou de girofle et une feuille de laurier. Laissez cuire pendant 10 à 15 minutes à peu près. Vérifiez la cuisson des lentilles. Pendant ce temps-là, nous allons éplucher 150 g d'oignons que nous allons couper et faire revenir dans une casserole avec un filet d'huile d'olive, 200 g de carottes coupées en mirepoix, additionnées de 250 g de poireaux coupés également en mirepoix, un petit filet d'eau, un couvercle et une petite cuisson à l'étouffée pendant une quinzaine de minutes. Pendant ce temps-là, les lentilles ont dû finir de cuire. Nous allons pouvoir les égoutter, les mettre dans un saladier, puis ajouter les légumes que nous avons cuits, bien mélanger l'ensemble. Et dans notre mixeur, nous allons pouvoir ajouter la moitié des légumes, les 3 œufs, les 150 g de farine, les 4 gousses d'ail mixées, du sel et du poivre, l'ensemble des légumes qui nous resteront dans notre saladier. Et nous allons pouvoir mixer l'ensemble sans que ce soit non plus trop mixé, mais de manière à avoir une texture quand même homogène, mais pas trop mixée. Goûtez pour voir si l'assaisonnement est correct. Ajoutez sel et poivre à votre convenance. Vous pourrez y ajouter des épices selon vos goûts. Ça peut être du cumin, du curry, des graines de carvi aussi, c'est excellent. En parallèle, nous aurons bien évidemment fait chauffer notre four à 180 degrés et nous pourrons y incorporer à chaud le moule à cake où nous aurons déposé la préparation du coup de la terrine dans une feuille de papier sulfurisé, enfournée pendant 30 minutes. À la sortie, on obtient une terrine moelleuse, parfumée, parfaite pour un repas léger ou un pique-nique. Et pour accompagner cette terrine, je vous propose une alternative originale à la mayonnaise classique, une mayonnaise végétale à base de pois chiches. On prend donc 240 g de pois chiches cuits, 48 g de échalote, 48 g de moutarde, 120 g d'huile de colza, 24 g de vinaigre, du sel et du poivre. Nous allons mixer le tout, goûter, rectifier l'assaisonnement. Il faut que la préparation soit lisse et bien mixée. Nous pourrons la conserver dans des bocaux, à l'extérieur du frigo sans problème, puisqu'il n'y aura pas de problème de conservation. Pour une meilleure dégustation et un goût plus subtil, nous pourrons les placer quand même au frais. Et voici deux recettes simples, savoureuses et une belle façon de cuisiner le végétal au quotidien. Alors à vos mixeurs et bon appétit!
Vous êtes dans l'émission Les Plantes Vagabondes, l'émission 100% nature de Radio G sur 101.5 FM et nous partons aujourd'hui à la découverte des lentilles. Constituées de protéines et de fibres, les graines de lentilles apportent aussi des sels minéraux et du fer, indispensables à nos organismes. Associées aux céréales, elles offrent encore aujourd'hui un régime alimentaire équilibré et bon marché, notamment aux populations les plus démunies. Cependant, sa consommation est effrénée par deux opérations fastidieuses. Tout d'abord, la présence de petits cailloux liés à la technique de récolte, obligeant à les trier avant utilisation, et ensuite un trempage préalable dans l'eau tiède, nécessaire pour faciliter la cuisson. Heureusement, tout cela est oublié et de nos jours n'est plus nécessaire, si bien qu'elles sont redevenues à la mode, notamment dans l'alimentation végétarienne. En France, la lentille verte du Puy, cultivée en Haute-Loire, a obtenu l'appellation très convoitée, l'appellation d'origine contrôlée en 1996. Allez, il est temps de faire une pause musicale en clin d'œil avec Pierre Louki et sa chanson humoristique « En triant les lentilles ».
En triant des lentilles, sans bruit et sans discours. En triant des lentilles, j'ai découvert l'amour. Trier avec Camille est le plus beau des jeux. À droite, les grains cassés. À gauche, les grains germés, seule la belle lentille dans la casserole. Les cailloux conservés dans un petit panier font la joie du cantonnier. Chez nous, nous n'avons pas de télé ni radio, pas d'amusement coûteux. Mais pour quelques 225 francs le kilo, nous coulons des jours heureux. En triant des lentilles, le soir au coin du feu. Deux livres de lentilles, pour un amour c'est peu. La lentille émoustille quand on la trie à deux. Camille de sa menotte, trio, triba, tripote, en murmurant, prends-en de la graine. Moi sans me faire prier, je m'y mets, et hop, ça y est, toute la lentille est triée. Mais voilà qu'un soir, un inquiétant antillais voulut se mêler au tri. Trier en trio, c'est trop, on l'a étrié, tant étrié que depuis. On mange des lentilles tous les jours en prison. Mais par derrière nos grilles, jamais nous ne trions. On y trouve des billes et des boutons pression. Des écrous de bicyclette, des étuis à lunettes, y a du laisser aller aux cuisines. Mais nous, on ne s'en fait pas, on a de l'estomac, on se dit qu'il te rira, verra.
Oh, les belles paroles, comme les lentilles d'eau, à la surface d'un lac, elles savent cacher les rides. Sur l'eau dormante, elles forment un joli tapis vert. Mais sous les apparences, il n'est rien de solide. Ce poème de Alain Hankar est une excellente transition pour parler d'autres lentilles. Les lentilles aquatiques, dont la plus connue se nomme Lemna minor ou petite lentille d'eau. Sans doute leur nom vient-il de la forme sphérique du feuillage. Toujours est-il que, comme la lentille terrestre, les lentilles d'eau sont appréciées pour leur richesse en protéines, recherchées en alimentation humaine et animale. Installées dans les milieux d'eau douce, leur multiplication végétative s'effectue par division des feuilles. Les feuilles pourvues de poches d'air flottent à la surface de l'eau et sont pourvues de racines immergées à leur face inférieure. Ces feuilles groupées par trois le plus souvent, ce qui les fait même ressembler à des petits papillons verts en surface. Très rarement, elles émettent des fleurs rudimentaires aériennes qui forment des fruits qui ne s'ouvrent pas à maturité et qui donneront, après décomposition, quelques graines. Ces végétaux contribuent à dépolluer les milieux, même si leur prolifération est un signe d'eutrophisation, c'est-à-dire d'un excès d'azote et de phosphore. D'autres lentilles du même genre colonisent les milieux d'eau stagnante, comme les mares, les bassins, les étangs ou les marais, à l'instar de la lentille à trois lobes et la lentille d'eau bossue. Leur faculté à se multiplier très rapidement, une population se multiplie par deux en une semaine si les conditions sont réunies, cette faculté en fait une piste intéressante pour dépolluer les milieux et ou assurer l'alimentation, voire améliorer la santé humaine, puisqu'elle est efficace contre la fièvre et possède des vertus soporifiques. Toutefois, bien veiller à vérifier l'état de pollution du milieu avant consommation. Les lentilles aquatiques sont un sujet idéal pour faire la transition avec la chronique L'Aquabulaire, les mots de la rivière. Écoutons-la.
When you're feeling sad, go to the river.
Dis Marie, c'est quoi l'eutrophisation ?
Derrière ce mot un peu compliqué se cache un processus totalement naturel mais qui peut être influencé par les activités humaines. Les plans d'eau sont en perpétuelle transformation. Écosystèmes initialement pauvres, ils s'enrichissent progressivement en éléments nutritifs. C'est le processus d'eutrophisation. Ces nutriments, qui proviennent du bassin versant, permettent le développement d'une vie végétale et animale de plus en plus abondante. Lorsque les organismes meurent, leurs débris se dégradent et s'accumulent sur le fond. Simultanément, des sédiments, du sable, des vases sont apportés par les affluents et se déposent aussi au fond de la cuvette. Lentement, le plan d'eau s'enrichit, sa profondeur diminue et il se transforme en marais. Ce phénomène d'eutrophisation naturelle peut être assimilé à un vieillissement de l'écosystème. Il s'étale sur plusieurs milliers d'années. Lorsque l'eutrophisation devient visible sur des temps courts, elle est globalement provoquée par le fait que le milieu aquatique reçoit trop de nourriture. Pour comprendre, imaginez une rivière, de l'eau claire, quelques poissons, des plantes aquatiques, des libellules, un petit écosystème qui fonctionne plutôt bien. Et puis un jour, les algues commencent à pousser, un peu, beaucoup, énormément, au point que l'eau devient verte, parfois épaisse, un peu comme une soupe. Si vous avez déjà vu un lac ou un étang couvert d'algues vert fluo en plein été, vous avez probablement été témoin d'eutrophisation. Lorsqu'elle n'est pas naturelle, d'où vient cette eutrophisation ? Très souvent, la cause vient de nous. Les engrais, par exemple, contiennent de l'azote et du phosphore, exactement ce que les algues adorent. Quand il pleut, une partie de ces engrais sont lessivés, emportés par l'eau qui ruisselle vers les rivières, puis vers les lacs ou la mer. Résultat, pour les algues, c'est buffet à volonté. Et les algues, quand elles ont beaucoup à manger, elles se multiplient très vite. En Bretagne, certaines plages sont régulièrement envahies par les algues vertes. Il peut y en avoir tellement qu'on doit parfois les ramasser avec des tracteurs. Mais le problème ne s'arrête pas là. Quand toutes les algues meurent, elles coulent au fond de l'eau et commencent à se décomposer. Et cette décomposition consomme beaucoup d'oxygène, tellement que parfois il n'en reste plus assez pour les poissons et les autres organismes aquatiques. On peut alors voir apparaître des zones mortes. Un exemple célèbre se trouve dans le golfe du Mexique. Chaque année, une immense zone pauvre en oxygène se forme à cause des nutriments transportés par le fleuve Mississippi. Les poissons et les crevettes doivent fuir la zone quand ils le peuvent. On peut résumer l'eutrophisation comme ça. Trop de nourriture dans l'eau déséquilibre tout l'écosystème. C'est un peu comme si vous nourrissiez un aquarium 10 fois trop. Au début, les poissons sont contents, puis l'eau devient trouble, les algues envahissent tout et l'équilibre disparaît. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir. Mieux gérer les engrais, améliorer le traitement des eaux usées, restaurer les zones humides qui filtrent naturellement l'eau. Parce qu'au fond, la nature fonctionne très bien toute seule, tant qu'on ne lui sert pas un buffet illimité d'engrais.
When you feel ashamed, go to the river. When you're feeling sad, go to the river.
Cette émission est terminée. Hélas, si nous allons devoir nous quitter, n'hésitez pas à écouter, réécouter sans limite tous nos podcasts de l'émission Les Plantes Vagabondes sur radio-g.fr. Toute l'équipe du Planty vous donne rendez-vous les prochains vendredis pairs sur 101.5 FM pour découvrir la porcelle.